Jules Laforgue, Moralité légendaire, Hamlet ou les suites de la piété filiale, c'est plus fort que moi. De sa fenêtre préférée, si chevrotante à s'ouvrir, avec ses grêles vitres jaunes losangées et de mailles de plomb, Hamlet, personnage étrange, pouvait, quand ça le pressait, faire des ronds dans l'eau, enfin dans l'eau, autant dire dans le ciel. Voilà quel fut le point de départ de ses méditations et de ses aberrations. La tour où, depuis l'irrégulier décès de son père, le jeune prince s'est décidément arrangé pour vivre, se dresse en lépreuse sentinelle, oubliée au bout du parc royal au bord de la mer qui est à tous. Ce coin de parc est le cloaque où l'on jette les détritus des cerfs, les décatis bouquets des galas éphémères. La mer est le Sund, au flot sur qui on ne peut faire fond, avec la côte de Norvège en vue où la ville d'Helsingborg, ce nid de l'indigent et positif prince Fortumbras. L'assise de la tour où le jeune et infortuné prince s'est décidément arrangé pour vivre croupit au bord d'une anse stagnante où le Sund archange aussi pour envoyer moisir le moins clair de l'écume d'épave de ses quotidiens et emplois personnels travaux. Ô pauvre assise stagnante! Les flottilles des cygnes royaux à l'œil narquois n'y font guère escale. Du fond vaseux de paquets d'herbages, là montent au pluvieux crépuscule vers la fenêtre de ce prince si humain, les cœurs d'antiques ménages de crapauds, râles glaireux expectorés par de cathareux vieillards, dont un rien de variation atmosphérique dérange les rhumatismes ou les gluantes pontes. Et les derniers rebouts des bateaux laborieux viennent troubler à peine, non plus que les perpétuelles averses, la maladie de peau de ce coin d'eau noire, oxydée d'une bave de fiel balayée comme de la malachite liquide, cataplasme çà et là de groupes de feuilles plates en forme de cœur autour de rudimentaires tulipes jaunes, hérissées de çà de là de maigres bouquets de joncs fleuris, de frêles ombrelles semblables, entre parenthèses, à la fleur de la carotte dans nos climats. Ô pauvre France, crapaud chez eux, floraison inconsciente. Et pauvre coin du parc, bouquet dont les jeunes femmes se débarrassèrent comme minuit teintait. Et pauvre Sund, flot abruti par les autant inconstants, nostalgiques, bornés par les bureaux très quotidiens de Fortumbras d'en face. C'est pourquoi, sauf orage, ce coin d'eau est bien le miroir de l'infortuné prince Hamlet, en sa tour paria, en sa chambre aux deux fenêtres vitré de jaune, dont l'une montre un gris souillé de ciel. Ah ! Ah ! Non, c'est pourquoi, sauf orage. Numéro 1. C'est pourquoi, sauf orage, ce coin d'eau est bien le miroir de l'infortuné prince Hamlet, en sa tour paria, en sa chambre aux deux fenêtres vitrées de jaune, dont l'une montre en gris souillé les ciels, le large et l'existence sans issue, et l'autre est ouverte à la plainte perpétuelle du vent dans les hauteurs et les hauteurs futaies du parc. Pauvre chambre tiraillée ainsi au sein d'un inguérissable, d'un insolvable automne. Même en juillet comme aujourd'hui, c'est aujourd'hui le 14 juillet 1601, un samedi, et c'est demain dimanche dans le monde entier les jeunes filles iront injoliment à la messe. Au mur, une douzaine de vues du Jutland. Tableau impeccablement, mais, comme on déjà dit, c'est un peintre aux galères, et dont chaque pièce du château utilise ainsi sa bonne douzaine. Entre les deux fenêtres, deux portraits en pied. L'un, Hamlet, en dandy, un pouce passé dans sa ceinture de cuir brut, le sourire attirant du fond d'une pénombre sulfureuse. L'autre, son père, bardé d'une belle armure neuve, l'œil coquin et faunesque, feu son père, le roi Orwendil, irrégulièrement décédé en état de péché mortel, et dont Dieu est l'âme, selon sa miséricorde bien connue. Sur une table, dans le jour d'insomnie des vitres jaunes, un laboratoire d'aquafortiste irrémédiablement rongé de sales cousagistés. Un fumier de livres, un petit orgue, une glace en pied, une chaise longue et un buffet à secret. Il a peur d'être empoisonné depuis le louche décès de son père. Dans la chambre à coucher, près du lit, un gothique édicule en fer forgé, d'où un jeu de clés peut faire surgir deux statuettes de cire. Geruta, mère de Hamlet, son mari d'aujourd'hui, l'usurpateur adultère et fratricide Fango, tous deux modèles d'un pouce plein de verve vengeresse, et le cœur puérilement percé d'une aiguille, ah, la belle avance. Au fond de l'alcôve, un appareil à douche, hélas. De noir vêtu, la petite épée au côté, coiffée de son sombrero de noctambule, Hamlet, accoudé à la fenêtre, regarde le Sund, le large et laborieux Sund, coulant son train ordinaire de flot quelconque, attendant le vent et l'heure de batifoler magistralement avec les pauvres barques de pêcheurs. Seul sentiment dont la fatalité qui pèse sur eux les laisse capables. Après un ciel d'hier et en attendant celui de demain, aujourd'hui, gros ciel blafard, pas bien soulagé par la récente ondée, mais promettant un beau dimanche pour demain. Et c'est déjà le crépuscule, un de ces crépuscules comme les chroniques du temps nous en rapportent, avec une émotion si peu jouée, et les bruits de la ville d'Elseneur, qu'un vaste bassin sépare des domaines royaux qui commencent à disperser et noyer ces rumeurs de jour ou marcher vers les tavernes. Ah, me la coulée douce et large comme ses flots, soupire Hamlet. Ah, de la mer aux nuées, des nuées à la mer. Oh, laissez faire le reste. Et il emballe le repanorama inconscient d'un geste ad hoc, et il divague ainsi. Oh, que je fusse seulement poussé à mon dos au milieu de la pente. Oh non, 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 non. Ah, que je fusse seulement poussé, numéro 3. Ah, que je fusse seulement poussé à m'en donner la peine. Mais tout est si précieux de minutes et si fugace, et rien n'est pratique que se taire. Se taire et agir en conséquence. Stabilité, stabilité, ton nom est femme. J'admets bien la vie à la rigueur, mais un héros. Et d'abord, arriver domestiqué par un temps et des milieux. Est-ce une bonne et loyale guerre pour un héros? Un héros. Et que tout le reste fut de levée de rideau. Moi, oh, si j'étais une jeune fille bien, je ne permettrais qu'à un pur héros de poser ses lèvres sur ma destinée. Un héros dont on pourrait citer les hauts faits au besoin ou les formuler. Ah, par ce temps de damnaux et de vergogne, comme dit Michel-Ange, cet homme supérieur à tout le tour Valsen, il n'y a plus de jeunes filles, toutes des gardes malades. Oh, j'oublie les petites poupées adorables, mais hélas, incassables, les vipères et les petites oies à duvet pour enrayer. Aéro, ou simplement vivre. Méthode, méthode, que me veux-tu? Tu sais bien que j'ai mangé du fruit de l'inconscience. Tu sais bien que c'est moi qui apporte la loi nouvelle au fils de la femme et qui vais détrônant l'impératif catégorique, restaurant à sa place l'impérial climatérique. Le prince Hamlet en a comme ça long sur le cœur, plus long qu'il n'en veut dire, plus long qu'il n'en tient en cinq actes, plus long que notre philosophie n'en surveille entre ciel et terre. Mais il est en ce moment particulièrement agacé par l'attente de ces comédiens qui n'arrivent pas et sur lesquels il compte si tragiquement. Outre qu'il vient de réduire en morceaux les lettres d'Ophélie disparues depuis la veille, lettres écrites par manie de petite parvenue sur du papier de hollandais bis si récalcitrant à déchirer que les doigts de Hamlet lui encuissent encore furieusement. Ah, misère et petit fait, où peut-elle bien être à cette heure? Sans doute chez des parents à la campagne. Paul saura bien revenir, elle connaît le chemin. Elle ne m'eut d'ailleurs jamais compris. Quand j'y songe, elle avait beau être adorable et fort mortellement sensitive, en grattant bien, on retrouvait l'anglaise, imbue de naissance de la philosophie égoïste de Hobbes. Rien n'est plus agréable dans la possession de nos biens que de penser qu'ils sont supérieurs à ceux des autres, dit Hobbes. C'est ainsi qu'Ophélie m'eût aimé comme son bien et parce que j'étais socialement et moralement supérieur au bien de ses petites amies. Et les menues phrases qui lui échappaient aux heures où on allume les lampes sur le bien-être et le confort. Un Hamlet confortable. Ah, malheur! Grâce au moins pour mon ange gardien, si long pour moi. Ah, s'il me venait par un soir pareil dans ma tour d'ivoire, une sœur, mais cadette de cette Hélène de Narbonne, qui était allée conquérir à Florence son adoré Bertrand, comte de Roussillon, bien que connaissant son mépris pour elle. Ophélie, Ophélie, chère petite glu, reviens, je t'en supplie, je n'y reviendrai plus. Tout de même, mon cher et tout Hamlet que nous sommes, nous faisons parfois une cordiale crapule. Pas suffit, les voici. À gauche, sur les berges d'Elseneur, il aperçoit qu'il a entendu parler de ses étonnants yeux d'hirondelle de mer, un attroupement qui ne peut être que des comédiens. Le passeur, dans son large bachot, les embarquait. Un roquet aboyait à ses oripeaux. Un gamin s'était arrêté de faire des ricochets. Un de ces messieurs, très drapé, pris comme le passeur et du geste d'un qui s'encanaille pour divertir la compagnie, une paire de rames et l'on cingla vers. Des index tendus indiquaient le château. Une des dames laissait pendre un bras nu au fil de l'eau, et les abois, les rires, les voix arrivaient clarifiés comme dans l'aquarelle. Il y avait certes là l'étoffe d'un beau soir au XVIIe siècle. Hamlet quitta la fenêtre et s'installant devant une table, se mit à feuilleter deux cahiers minces. Voilà pourtant Mon sentiment premier était de me remettre l'horrible, horrible événement pour m'exalter la piété filiale, me rendre la chose dans toute l'irrécusabilité du verbe artiste, faire crier son dernier cri au sang de mon père, me réchauffer le plat de la vengeance. Et voilà, au potasouaïnaï, je pris goût à l'œuvre, moi. J'oubliais peu à peu qu'il s'agissait de mon père assassiné, volé de ce qui lui restait à vivre dans ce monde précieux. Pauvre homme, pauvre homme. De ma mère prostituée. Vision qui m'a saccagé la femme et m'a poussé à faire mourir de honte et de détérioration la céleste Ophélie. De mon trône, enfin. Je m'en allais bras dessous avec les fictions d'un beau sujet. Car c'est un beau sujet. Je refis la chose en vers iambiques. J'intercalais des hors-d'œuvre profanes. Je cueillis une sublime épigraphe dans mon cher Philoctète. Oui, je fouillais mes personnages plus profonds que nature. Je forçais les documents. Je plaidais du même génie pour le bon héros et le vilain traître. Et le soir, quand j'avais rivé ma dernière rime à quelques tirades de résistance, je m'endormais, la conscience toute rosière, souriant à des chimères domestiques, comme un bon littérateur qui, du travail de sa plume, sait soutenir une nombreuse famille. Je m'endormais sans songer à faire mes dévotions aux deux statuettes de cire et leur retourner leur aiguille dans le cœur. Ah, Cabotin va, voyez le petit monstre. Et le jeune et insatiable prince court se jeter à genoux devant le portrait de son père dont il baise les pieds sur la toile froide. Pardon, pardon, n'est-ce pas, père? Au fond, tu me connais. Et se relevant et ne pouvant esquisser cet œil paternel, toujours et quand même clignant en dessous d'un air royalement faunesque. D'ailleurs, tout est hérédité. Soyons médical et nature, nous finirons par y voir clair. Il revient s'asseoir devant ses cahiers qu'il couvre aussi d'un œil royalement faunesque. C'est égal, il y a de belles pages là-dedans. Et si les temps étaient moins tristes? Ah, que ne suis-je un simple clerc à Paris, montagne Sainte-Geneviève, où fleurit dans ce moment une école de néo-alexandrins? Un simple petit bibliothécaire dans cette brillante cour des Valois, au lieu de ce château humide, de cet antre à chacal et à grossier personnage, où l'on n'est même pas sûr de sa peau. On vient de frapper deux coups d'une clé d'or sur le marteau d'argent de la porte. Un valet entre. Les deux étoiles de cette troupe sont là, selon les ordres de votre maltesse. Quelles ordres? Et puis sa majesté la reine, demandant si son altesse persiste à vouloir faire donner le spectacle ce soir même. Crûment, et pourquoi pas? C'est que son Altesse ne l'ignore pas. L'enterrement du Lord Chamberlain Polonius a lieu aussi ce soir, tout à l'heure. Eh bien, en voilà des considérations. Les uns jouent tandis que les autres rentrent dans la coulisse, voilà tout. Et l'idéal se délecte quand même son petit maximum tous les soirs, les va, mon pauvre vieux. Le valet s'efface, et derrière la révérence des deux étoiles annoncées, ferme la porte. Entrez, mes frères, asseyez-vous et prenez des cigarettes. Voici du Dubec et voici du Bird's Eye. C'est sans façon chez moi. Comment t'appelles-tu, toi? William, riposte le jeune premier en pourpoint à crever encore poudreuse. Et vous, ma jeune dame? Oh, mon Dieu, comme elle est belle! Encore des histoires. Ophélia, résume celle-ci dans une sorte de sourire boudeur, un sourire douteux à s'entendre de malaise, si maléfique que le jeune prince doit éclater pour faire diversion. Comment, encore une Ophélia dans ma potion? Oh, cette usurière manie qu'ont les parents de coiffer leurs enfants de longs théâtres. Car Ophélie, ce n'est pas de la vie, ça, mais de pures histoires de planches et de centième. Ophélia, Cordélia, Lélia, Coppélia, Camélia. Pour moi qui ne suis qu'un paria, n'auriez-vous pas un autre nom de baptême? De baptême, entendez-vous, pour l'amour de moi? Si, seigneur, je m'appelle Kate. À la bonne heure, et comme ça vous sied mieux. Que je vous baisote les mains, ô Kate, pour cette étiquette. Il se lève lui-même et va la baiser au front, longuement, à son front de Kate, dont il détourne brusquement pour aller à la fenêtre, cacher un instant son visage dans ses mains. William fait signe à sa camarade. « Hein, on ne nous avait pas trompés, il l'est !»« Est-ce possible ?» répondent de toute leur mansuétude bleue les yeux de Cathy, que Vlan rencontre Hamlet en revenant à sa place. Hamlet hausse flatteusement les épaules. « Eh bien, mes enfants, trêve de cul-de-lampe, qu'apportez-vous en fête de répertoire ?»« Nous avons les joyeuses commères de Saint-Denis, le docteur Faustus, l'apologue de Ménénius Agrippa, le roi de Thulé. »« Bon, vous me direz le reste après-demain, aux débeautés. » Tout ça, c'est des belles conceptions, mais pas des conceptions immaculées comme les miennes. Pour ici et pour ce soir, vous allez secrètement mettre à l'étude le drame que voici. Vous en serez d'ailleurs royalement récompensé. C'est un drame de moi. Il ne demande que trois principaux rôles. Il y a un roi, il s'appelle Gonzago, et une reine Batista. Cela se passe à Vienne. La reine a des relations adultères et conspiratrices avec son beau-frère, Claudius. Une après-midi, le roi fait sa sieste, cuve ses péchés en fleurs sous la tonnelle. La reine feint d'éplucher austèrement des fraises pour le réveil de son époux. Survient Claudius, les deux complices échangent un baiser silencieux, puis ils font fondre du plomb dans une cuillère, et il verse délicatement dans l'oreille du roi. « Oh, quelle horreur !» laisse échapper Kate dans un sourire mourant en bouderie. « N'est-ce pas ? Horrible, horrible, horrible !»« Bon, nous disons donc qu'il verse le plomb fondu, ce pâle liquide. Et le pauvre roi Gonzago trépasse dans des convulsions. Horrible, horrible, et en état de péché mortel. Notez bien, Claudius !» Alors lui enlève sa couronne, sans coiffe, et offre le bras à la veuve. La conséquence est que, en dépit des plus fâcheux pronostics, William fera Claudius et Kate la reine, deux jolies bronzes, ma foi. Hésite Kate. Déclare William, notre habitude à ma camarade et à moi est de n'incarner que des rôles sympathiques de préférence. Sympathique, tas de brutes, et sur quoi pouvez-vous jurer qu'un être est sympathique, ici-bas? Et puis elle progrès, alors? Nous sommes aux ordres de notre gracieux Seigneur. Voici le manuscrit, William, je vous le confie. N'allez pas l'égarer, sans blague, j'y tiens. Préparez ça gentiment pour ce soir. Maintenant, vous voyez tout ce que j'ai marqué au crayon rouge sang de bœuf. Devra être lancé, souligné, et tout ce qui est compris dans une accolade au crayon bleu, vous pouvez le supprimer comme trop épisodique, bien qu'au fond, enfin, par exemple, tous ces couplets-ci, un cœur rêveur par des regards purs de tout esprit de conquête, je suis si exténué d'art, me répéter quel mal de tête, ô lune de miel, descendez du ciel. Oh, et ceci, ô petite âme brave, ô chair fière et droite, c'est moi que je convoite d'être votre esclave. Tiens, mais c'est que c'est charmant, laisse échapper William et Kate se regardant. Oh, je vous crois, mais si le temps était plus propre, ben et ceci. Oh, cloître-toi, l'amour, l'amour s'échange par le temps qui court, simple et sans foi, comme un bonjour. C'est en effet bien curieux, assure l'acteur. Et Hamlet, prince de Danemark et créature infortunée, exulte. Et cette délicieuse ronde. Il était encore sage, et ro-ro-ro, petit patapon, il était encore sage, qui avait tous ses boutons, etc. Etc., etc. Enfin, mon sort a été bien étrange. Mais ceci n'allait pas le supprimer. C'est le chant de triomphe de l'usurpateur Claudius. Ça se chante sur l'air pressentiment trompeur. Vous savez, je suis en mesure de prouver que Dieu fera les 12 yeux à cette aventure. Bon, alors c'est entendu. Voici le manuscrit, je vous le reconfie, mon cher William. D'ailleurs, le spectacle commence qu'à 10 heures et j'irai un peu avant voir dans vos coulisses comment ça marche. En attendant, vous ne voudrez pas que je vous objurgasse d'accepter ceci ? Les 2 étoiles en poche et sortent à reculons. William déclame en sourdine à sa camarade : la démence est partout et sans cérémonie frappe l'humble marchand ou l'acteur de génie. Et la garde qui veille aux portes du palais n'en défend pas Hamlet. Pauvre jeune homme, soupire angéliquement Kate, et c'est qu'il n'a pas du tout l'air dangereux. Hamlet, homme d'action, perd 5 minutes à rêver devant son drame maintenant en bonne main. Et puis il s'exalte. Ça y est, le sieur Fango va comprendre. À bon entendeur, salut. Et je n'aurai plus qu'à agir, qu'à signer. Agir. Pour le tuer et lui faire rendre gorge de sa vie. Tuer. Bon, hier, je me suis fait la main en tuant Polonius. Il m'espionnait, caché derrière cette tapisserie qui représente le massacre des innocents. Bon, mais ils sont tous contre moi. Et demain, Laerte et après-demain la Fortin brasse d'en face. Il faut agir. Il faut que je tue ou que je m'évade d'ici. Oh, m'évader. Oh, liberté, liberté. Aimer, vivre, rêver, être célèbre, loin. Oh, chère Aurea Mediocritas. Oui, ce qui manque à Hamlet, c'est la liberté. Ne demande rien à la personne, moi. Je suis sans amis. Je n'ai pas un ami qui pourrait raconter mon histoire. Un ami qui me précéderait partout pour m'éviter les explications qui me tuent. Je n'ai pas une jeune fille qui saurait me goûter. Ah oui, une garde malade. Une garde malade pour l'amour de l'art, ne donnant ses baisers qu'à des mourants, des gens in extremis, qui ne pourraient par conséquent s'en vanter ensuite. Et au fond, dire que j'existe, que j'ai ma vie en moi, l'éternité en soi avant ma naissance, l'éternité en soi après ma mort, et passer ainsi mes jours à tuer le temps. Et la vieillesse qui vient, la vieillesse hideuse, révérée et vénérée des jeunes filles, des hypocrites et routinières jeunes filles, je ne puis piétiner ainsi anonyme et laisser des mémoires, mais ça ne me suffit pas. Oh, Hamlet, Hamlet, si l'on savait. Mais toutes les femmes viendraient sangloter sur ton divin cœur, comme jadis elles venaient sangloter sur le corps d'Adonis. Avec des siècles de civilisation en plus. Bah, qu'est-ce que ma biographie leur ferait avec leurs pannes chaque jour et les amours et les décès autour? Oui, sans doute un instant sur la scène après dîner, mais pff, dès rentrer chez eux, les hommes et les femmes par couple admireront mes scrupules d'existence, mais ne les imiteront nullement et n'en auront pas plus honte pour cela. Entre eux, d'hommes aimés à femmes aimées dans leur foyer. Et plus tard, on m'accusera d'avoir fait école. Et si je nommais, moi, mon sacré maître, mon universel maître? Pourtant, oh, comme je suis seul. Est vrai, l'époque n'y fait rien. J'ai 5 sens qui me rattachent à la vie. Mais ce 6e sens, ce sens de l'infini. Bah, je suis jeune encore. Et tant que je jouirai de cette excellente santé, ça ira, ça ira. Mais la liberté, la liberté. Oui, je m'en dirai, je reviendrai anonyme parmi de braves gens, et je me marierai pour toujours et pour tous les jours. Ça aurait été de toutes mes idées la plus hamlétique. Mais ce soir, il faut agir, il faut objectiver. En avant, par-dessus les tombes, comme la nature. Hamlet descend de sa tour, enfile un long corridor tapissé de monotones vues du Jutland, auquel il lance en passant des crachats héroïques, puis tourne par un palier où les deux albardiers de faction ont à peine le temps de le reconnaître et de se remettre au port d'armes. D'autres, sur les banquettes, jouent aux osselets. Hamlet leur crie en passant « Soustinez, abstinez !»« Liberté, liberté !» Et sifflotant, ils descendent encore un escalier et se trouvent sous le péristyle de sortie devant la loge du châtelain. La fenêtre du châtelain est ouverte. À la persienne pend une cage. Avant même de voir cette cage, Hamlet se rue dessus, l'ouvre, y cueille un tiède canard qui s'endormait, lui tord le cou entre le pouce et l'index, et toujours sifflotant, plus allegro, le lance au fond de la chambre, à la tête, mais ceci par hasard, d'une petite fille qui est là, faisant du crochet, profitant du dernier filet du jour, et qui s'arrête, les yeux ronds et les mains jointes, devant ce foudroyant forfait. Hamlet s'enfuit sans se retourner. Et soudain, il revient, va à cette fenêtre, et entre dans cette chambre. La petite fille est toujours là, les mains jointes, il se jette à ses pieds. « Oh, pardon, pardon, je l'ai pas fait exprès. Ordonne-moi toutes les expiations. Mais je suis si bon. J'ai un cœur d'or, comme on n'en fait plus. Tu me comprends, n'est-ce pas, toi ?»« Oh, monseigneur, monseigneur, » balbutie la petite fille. « Oh, si vous saviez, je vous comprends tant. Je vous aime depuis si longtemps, j'ai tout compris. » Hamlet se lève. Encore une, pense-t-il. Est-ce que ton père est malade?
Non, monseigneur.
Tant pis. Tu lui poseras des cataplasmes avec génie.
Oh, vous, vous, mais je vous soignerai si bien.
C'est ça, je repasserai lundi prochain. Mon cancer ne suivra pas encore. Je sais vraiment pas ce qu'il a. « Allez à lundi, cher ange !» Hamlet s'éloigne, dûment soulagé. « C'est encore pour me faire la main que j'ai tué cet oiseau, » pense-t-il. « Jeune et infortuné prince. » Ces étranges impulsions destructives le prennent souvent à la gorge depuis le trop irrégulier décès de son père. Un jour, Hamlet était parti de grand matin pour la chasse. La préméditation, cette fois, l'avait tenu éveillé toute la nuit. La nuit qui porte conseil. armée d'on ne peut plus d'excellentes épingles, il préluda par embrocher les scarabées que la Providence mettait sur son chemin, les laissant ensuite continuer le leur ainsi. Il arracha leurs ailes aux papillons futiles, décapita les limaces, trancha les pattes de derrière aux crapauds et à des grenouilles, poivra de salpêtre une fourmilière et mit le feu, recueillit manis gazouilleurs dans les buissons et les abandonna au fil de la rivière prochaine pour leur faire voir du pays. Tout cela en cinglant à droite à gauche mille fleurs, sans égard pour leurs vertus pharmaceutiques. Et puis en chasse. La forêt de ces mille rumeurs printanières leur ravissait, telle lui ravit une chambre de torture de ces mille grésillements sur les réchauds. Et finalement, le soir, après une vaine sieste plus loin sous les arbres qui n'avaient rien vu, en revenant sur ses pas, un dernier spasme le poussa à prélever sur les victimes qui n'avaient pu s'aller cacher pour mourir et qu'il retrouvait en son chemin, une livre d'yeux crevée. Il s'en y lava les mains, il s'engraissa les phalanges, il faisait craquer ses phalanges, déjà tout tiraillé de malaise. Ah, c'était le démon de la réalité. L'allégresse de constater que la justice n'est qu'un mot, que tout est permis. Et pour cause, nom de Dieu, contre les êtres bornes et muets. Mais en approchant du château, Hamlet, fourbu d'insomnie et de stupides exaltations, avait senti la vaste peine du crépuscule le circonvenir pour l'étrangler. Il rentra à pas de loup, courut s'enfermer dans sa tour, sans lumière, barbotant, halluciné dans un grouillement clignotant d'yeux crevés, d'yeux crevés barbouillés d'inéduisables larmes, puis se blottit tout habillé sous ses couvertures, cuisant de sueur froide, pleurant de l'élixir de larmes, songeant presque à s'assassiner, ou du moins à se balafrer en expiation, sentant bien son cœur, son bon cœur, submergé à jamais dans cette mare de pauvres yeux crevés, immortellement pensifs. Et le lendemain, bah, j'étais assez ridicule. Et les guerres, et les tournées d'abattoir des siècles du monde antique et tout. Piteux provincial, cabotin, pédicure. Hamlet s'affecte donc pas plus que ça de l'irréparable meurtre de ce petit oiseau. Un simple coup de soupape accordé à ces animals sasirites. C'est fort commode, et si Hamlet n'en est pas encore à songer, qu'il n'a guère autrement apprécié la triste Ophélie, oh, guère autrement, pauvre oiseau. Son ange gardien n'en pense pas moins. Le cimetière d'Elsener gît tassé en pente sur le grand chemin à 20 minutes de la ville. Hamlet passe sous la triple porte d'enceinte. 5 ou 6 boutiques vivent là du corps de garde. Et puis, c'est la campagne, comme presque partout, triste et plate, hors rempart. Des ouvriers rentrent, une noce stationne, se concertant sur ce qu'elle pourrait bien faire par la ville à 7 heures. On ne reconnaît guère le prince Hamlet à Elsener. On hésite, on ne salue pas. Et d'ailleurs, sa petite personne, bon, ben, jugez plus tôt. De taille moyenne et assez spontanément épanouie, Hamlet porte pas trop haut une longue tête enfantine, cheveux châtains s'avançant en pointe sur un front presque sacré, et retombant, plats et faibles, partagés par une pure raie droite, scellait deux mignonnes oreilles de jeune fille. Masque imberbe, sans air glabre, d'une pâleur un peu artificielle, mais jeune. Deux yeux bleu-gris, partout étonnés et candides, tantôt frigides, tantôt réchauffés par les insomnies. Fort heureusement, ses yeux romanesquement timides rayonnent en penseur limpide et sans vase, car Hamlet, avec son air de regarder toujours en dessous, comme cherchant à tâter d'invisibles antennes, le réel ferait plutôt l'effet d'une camaldule que d'un prince héritier du Danemark, un nez sensuel, une bouche ingénue, ordinairement aspirante, mais passant vite du mi-clos amoureux à l'équivoque rictus de gallinacée, et de cette moue dont les coins sont tirés par les boulets de la galère contemporaine au rire irrésistiblement fendu d'un joufflu gamin de 14 ans. Le manteau n'est hélas guère proéminent, guère volontaire non plus, l'angle du maxillaire inférieur, sauf aux jours d'ennuis immortels où la mâchoire, alors portant en avant et les yeux, par cela même, reculant dans l'ombre du front vaincu, tout le masque rentre, vieilli de 20 ans. Il en a 30. Hamlet a les pieds féminins, ses mains sont solides et un peu tortues et crispées. Il porte une bague à scarabée égyptien d'émail vert à l'index de la main gauche. Il ne s'habille que de noir et s'en va d'une allure traînarde et correcte, correcte et traînarde. D'une allure traînarde et correcte, Hamlet chemine donc de vers le cimetière au crépuscule. Il croise des troupeaux de prolétaires, vieux, femmes et enfants, revenant des bagnes capitalistes quotidiens, voûtés sous leur sordide destinée. Parbleu, songe Hamlet, je le sais aussi bien que vous, sinon mieux. L'ordre social existant est un scandale à suffoquer la nature. Et moi, je ne suis qu'un parasite féodal. Mais quoi? Ils sont nés là-dedans, c'est une vieille histoire. Ça n'empêche pas leur lune de miel, ni leur peur de la mort. Et tout est bien qui n'a pas de fin. Eh oui, levez-vous un beau jour, mais pour qu'alors ça finisse, mettez tout à feu et à sang, écrasez comme punaise d'insomnie les castes, les religions, les idées, les langues. Refaites-vous une enfance fraternelle sur la terre, notre mère à tous, qu'on irait pâturer dans les pays chauds. Dans les jardins de nos instincts, allons cueillir de quoi guérir. Oui, va-t'en voir s'ils viennent. Ils sont trop tyrans domestiques pour cela, et pas encore assez esthétiques, et pour longtemps encore trop large devant l'infini. Qu'ils gobent bouche bée à Polonius, philanthrope quelconque, qui leur chante « Enrichissez-vous !» Et dire que j'ai eu un instant ma folie d'apôtre, comme Sakyamuni, fils de roi. Oh là là, moi avec ma chère petite vie unique, que j'aurais à partager avec une chère petite femme unique, attacher ce grelot, et prendre pour cela ma folle tête sonore. Ne soyons pas plus prolétaires que le prolétaire. Et toi, justice humaine, ne soyons pas plus fortes que la nature. Oui, mes amis, mes frères, le petit bonheur historique ou la purgation apocalyptique, le bon vieux progrès ou le retour à l'état de nature. En attendant, bon appétit et amusez-vous bien, demain dimanche. La montée du sentier qui mène à la grille du cimetière est pénible. Hamlet se renfrogne et froisse des coquelicots dans ses doigts. Il arrive trop tard, la cérémonie concernant Polonius est enterrée. Les dernières silhouettes officielles sortent. Hamlet s'accroupit derrière une haie pour les laisser passer sans être vu. Quelqu'un donne le bras à Laertès, fils du défunt, qui fait peine à voir. Une voix dit, comme d'un poussé à bout, « quand on a un fou à la maison, on l'enferme !» En se relevant, Hamlet remarque qu'il vient d'endommager gravement une fourmilière. « Oh, tant que faire, pense-t-il, et pour que le hasard m'ait des obligations. » Et il achève la dite fourmilière à coups de talon. Tout le monde est sorti. Hamlet ne trouve dans le cimetière que deux fossoyeurs. Il s'approche du premier, lequel arrange les couronnes déposées sur la tombe de Polonius. « Nous n'aurons son buste que le mois prochain, » lui déclare cet homme, sans y être autrement invité. « De quoi est-il mort, sait-on ? D'une attaque d'apoplexie, c'était un bon vivant. » Alors là, Hamlet, qui en conscience et malgré son âme si lettrée, ne s'en était pas encore avisé, sent qu'il a décidément tué un homme, supprimé une vie dont on peut témoigner, le nommé Polonius. Il guignait devant lui au moins 40 bonnes années encore. Polonius vous faisait à tout propos tâter sa santé de fer. Et Hamlet les a, d'une estocade irréfléchie, mais fatale, ma foi, rayée comme on biffe dans un exorbitant de vie d'architecte. Est-ce que ces menus conflits de phénomènes riment à quelque chose au-delà d'ici-bas ? Hamlet se campe devant ce fossoyeur qu'il observe, attendant des compliments sur son arrangement des couronnes. Il le toise supérieurement et puis lui aboie par la figure. « Words, 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 entendez-vous ? Des mots, mais des mots !» Il se dirige vers l'autre fossoyeur. Sans entendre celui-ci, il y crie un « Eh, va donc, fainéant ! Et vous, mon brave homme, que faites-vous là ?»« Sa seigneurie le voit, je retape les vieilles tombes. Ah, il y a beau jour que les vieux ont séché leurs plantes par ici. Notre cimetière est toujours resté aussi petit, cependant que les bontés du feu roi doublaient presque la population de sa bonne ville. » Le fossoyeur, un peu pris de vin, tâche à se caler sur sa bêche. « Ah, vraiment, doubler la population ?»« On voit que sa seigneurie n'est pas d'ici. Le feu roi, mort aussi d'une attaque d'apoplexie, était coureur, mais bel homme et un cœur d'or, et partout où il progénitait, il laissait de vraies caresses et de beaux écus à son effigie. Mais dites-moi, le prince Hamlet est bien le fils de sa femme Geruta. Eh, point ! Sa seigneurie a peut-être oui parlé de feu, l'incomparable Fulgioric. Oui, sans doute. Eh bien, le prince Hamlet est tout bonnement son frère par la mère. Hamlet, frère d'un fou de cour. Il n'est donc pas si fils de ses œuvres qu'il croyait. Et cette mère, elle ? Oh, parfaitement, la mère était bien la plus diaboliquement belle gypsy que, sauf votre respect, on n'ait jamais vue. Elle vint ici, disant la bonne aventure avec son fils Yorick. Elle fut retenue au château et un an après, mourut en mettant au monde le noble Hamlet. Et quand je dis en mettant au monde, elle mourut de l'opération césarienne qu'on lui fit. Ah ah, cet Hamlet ne fut pas facile à attirer dans ce monde d'ici-bas. Parfaitement, oui, elle était enterrée où sa seigneurie voit qu'on a déployé. Un ordre de la reine nous vint l'autre mois d'exhumer ses restes et de les brûler, bien que la gypsy fût chrétienne, aussi bien que vous et moi, à preuve que nous pintâmes à tire-larigot ce jour-là. Et puis est venu le tour de la tombe de son pauvre Yorick, dont sa seigneurie peut fouler les restes ici. Non, je n'en ferai rien.
Et que j'arrange pour recevoir dans une heure le corps de la noble fille de Polonius, Ophélie, qu'on a retrouvée. Eh oui, nous sommes tous mortels. Oh, Ophélie, on a retrouvé cette demoiselle? Oui, près de l'écluse, monsieur. C'est son frère Laertès qui ce matin est venu nous avertir. Il faisait bien peine à voir ce jeune homme. Il est très aimé. Vous savez qu'il s'occupe de la question des logements d'ouvriers. Il faut dire aussi qu'il se passe des drôles de choses. Et l'on assure avec cela, n'est-ce pas, que le prince Hamlet est devenu fou. Oh mon Dieu, près de l'écluse. Oui, c'est la débâcle. Oh, j'ai toujours dit, nous sommes mûrs pour l'annexion. Le prince Fortinbras de Norvège va nous faire notre affaire un de ces quatre matins. Moi, j'ai déjà converti mon petit pécule en actions de Norvège. Tout ça m'empêchera pas de boire un bon coup demain dimanche. C'est bien, continuez. Hamlet met un écu dans la main de l'homme et ramasse le crâne de Yorick. Il va se perdre, d'une allure traînarde et correcte, entre les cyprès et les mausolées, accablé de destinée, de bien louche destinée, ne sachant plus trop par quel bout reprendre un peu décemment son rôle. Hamlet s'arrête, il tient le crâne de Yorick embouché à son oreille et écoute perdu. Alas pour Yorick! Comme on croit entendre dans un seul coquillage toute la grande rumeur de l'océan, il me semble entendre ici toute l'intarissable symphonie de l'âme universelle dont cette boîte fut un carrefour d'écho. Voilà une solide idée. Mais voyez-vous, une espèce humaine qui ne s'enquérerait pas davantage, qui s'en tiendrait à cette rumeur vaguement immortelle qu'on entend dans les crânes en fait d'explication de la mort, c'est-à-dire en fait de religion. Alas pour Yorick! Les petits Delmintes ont dégusté l'intellect à Yorick. C'était un garçon de l'humour assez infini. Mon frère, même mère pendant 9 mois, si toutefois ce titre commande une attitude spéciale. Il fut quelqu'un, il avait le moi minutieux, entortillé, retors. Il se gobait. Où ça est-il passé, ni vu ni connu? Plus même rien de son somnambulisme. Le bon sens lui-même, dit-on, ne laisse pas de traces. Il y avait une langue là-dedans, ça grasseyait. Good night, ladies, good night, sweet ladies, good night, ça chantait, et souvent des gravelures. Il prévoyait. Hamlet fait le geste de lancer le crâne en avant. Il se souvenait. Même geste en arrière. Il a parlé, il a rougi, il a bâillé. Horrible, horrible, horrible. J'ai peut-être encore 20 ans, 30 ans à vivre, et j'y passerai comme les autres. Comme les autres, oh! Tout, quelle misère, ne plus y être. Oh, je veux dès demain partir, m'enquérir par le monde des procédés d'embaumement les plus adamantins. Elles furent aussi six petites gens de l'histoire, apprenant à lire, se faisant les ongles, allumant chaque soir la sale lampe, amoureux, gourmands, vaniteux, fous de compliments, de poignées de main et de baisers, vivant de cancans, de clochers, et disant « Quel temps fera-t-il demain? Voici l'hiver qui vient. Nous n'avons pas eu de prune cette année. Ah, tout est bien qui n'a pas de fin. Et toi, silence, pardonne à la terre. La petite folle ne sait trop ce qu'elle fait. Au jour de la grande addition de la conscience devant l'idéal,
Elle sera étiquetée d'un piteux idem dans la colonne des évolutions miniatures, de l'évolution unique, dans la colonne des quantités négligeables. Et puis des mots, des mots, des mots. Ce sera la ma devise, tant qu'on ne m'aura pas dénombré, que nos langues riment bien à une réalité transcendante. Quant à moi, avec mon génie, je pourrais être ce qu'on appelle communément un messie, mais voilà, trop gâté comme un benjamin par la nature. Je comprends tout, j'adore tout et je veux tout féconder. C'est pourquoi, comme je l'ai gravé au mur de mon lit, on indique également Rossard, ma rare faculté d'assimilation contrariera le cours de ma vocation. Oh, que je m'ennuie donc supérieurement. Eh bien, qu'est-ce que j'attends ici? La mort, la mort. Ah, qu'est-ce qu'on a le temps d'y penser, si bien doué que l'on soit? Moi, mourir, allons donc. Nous en causerons plus tard, nous avons le temps. Mourir, c'est entendu, on meurt sans s'en apercevoir, comme chaque soir on entre en sommeil. On n'a pas conscience du passage de la dernière pensée lucide au sommeil, à la syncope, à la mort. C'est entendu. Mais ne plus être, ne plus y être, ne plus en être, ne plus pouvoir seulement presser contre son cœur humain par une après-midi quelconque la séculaire tristesse qui tient dans un tout petit accord au piano. Mon père est mort, cette chair dont je suis un prolongement n'est plus. Il gît par là, étendu sur le dos, les mains jointes. Qui puis-je? Que passera mon tour un jour par là? Et on me verra aussi dignement étendu, les mains jointes, sans rire. Et l'on se dira, quoi? C'est donc là ce jeune Hamlet si gâté, si plein d'une verve amère? C'est lui devenu si sérieux comme les autres? Il a accepté sans révolte et de ce grand air si digne cette criante injustice d'être là?